Marianne et à Radio HDR de me permettre de faire cette émission. Comme d'habitude, on va se quitter en musique dans un instant avec un dernier morceau, Crash Cœur de Chamallow. Merci Gildas encore une fois.
Merci infiniment.
J'espère que vous avez passé un bon moment.
Très, très sympa.
On se donne rendez-vous pour ma part en septembre sur Radio HDR. Je vais profiter de l'été pour réfléchir à ce que je vais pouvoir vous faire découvrir de l'activité musicale normande. J'ai déjà quelques idées. J'espère que cette émission vous a plu. Restez.
HDR 7h de l'après-midi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Pieds dans la Lune, épisode 4. Marjane Sastrapi est décédée le 4 juin de sa grain. C'est à la fois tragiquement triste et sublime, elle nous manque déjà. L'eau fraîche coule à flot, il fait chaud. Iman, Sophie, Sonia, William, Marius, Félicia, Dima et Marianne à la technique s'affûtent. Nos invités Carl Espinas et Méni Meunier s'accordent sur tout. Nos pieds sont dans la lune, mais notre flamme est bien sur terre. C'est parti!
On célèbre nos deux super championnes ici à la radio. Iman, qui vient d'avoir la meilleure note de sa promo à l'université dans les métiers du multimédia et de l'internet. 19
oui.
sur 20, mesdames et messieurs. Elle était en alternance à la radio toute cette année universitaire. Bravo à toi, Iman. Tu as cartonné à la fac, mais aussi à la radio. Et Sonia, retenue partout dans ses choix sur Parcoursup. Sonia, notre super service civique en 2025-2026, elle étudiera l'histoire à la fac de Rouen. On est contents et en même temps, on n'est pas contents. On aimerait vous avoir pour la vie dans notre studio. Alors, la question, c'est est-ce que vous nous aimerez encore la saison prochaine ?
Bien sûr.
Benoît nous conseille maintenant une lecture et de la musique. Allez, on part au frais dans les forêts du nord du Québec, Benoît, avec l'autrice Gabrielle Fitoshiba.
Eh oui, rencontrer Gabrielle Fitoshiba, comme j'ai eu l'occasion il y a 3 ans au Festival de Livres Paris, est une expérience qui marque durablement. Je ne sais si on peut parler de charisme, d'aura, une chose est certaine, cette autrice québécoise vous submerge d'émotions par sa sincérité, son humanisme, que rien ne semble altérer, sa bonté évidente. Son envie de dialogue authentique, sa présence est sans doute par quelque chose d'assez étrange, inexplicable, une force qui semble la relier à la nature, au monde du vivant, qui se cache, à raison, à la folie des hommes et qui soudainement, par son entremise magique, s'adresserait à nous. Troublant. À 26 ans, cette Québécoise, bien née, bien installée, quitte la belle vue bétonnée de son beau bureau pour aller sans cabanée, sans eau, sans électricité, sans le moindre confort dans la région du Kamouraska, où la température peut descendre, et oui, jusqu'à moins 40 degrés. Ça fait rêver. Cette expérience, qui finira par être initiatique et la conduira à faire corps et esprit avec la nature, relève dans les premiers temps de la tentative désespérée de survie. De ce processus sortira une trilogie en livres, en cabanée, sauvagine et bivouac. Grande défenseur des causes environnementales canadiennes, comme l'importance de la préservation des arbres et forêts, le respect du vivant, des premières populations, elle consacrera des moyens à replanter des arbres pour au moins, comme elle dit, compenser le succès de ses livres gourmands en papier. Écoféministe, son dernier ouvrage, Exa, sorti récemment en poche, nous plonge dans une dystopie où les humains vivent enfermés dans des villes-prisons, entourés de pollution toxique. Des femmes chaque été en sortent pour aller reboiser. Mission pour la survie de l'espèce et aussi occasion de liberté en sororité. La dame est aussi poétesse. Son premier recueil, La forêt barbelée, préfacé par Cécile Coulon, notre invitée du mois dernier, est sorti en 2024 au Castor Astral. Le second vient de sortir et il s'intitule La robe en feu. Il est publié aux éditions XXZ. Gabrielle Fitoshiba, à lire pour passer un été au cœur de la forêt, à respirer un grand air de liberté, mais aussi pour se connecter au monde qui nous entoure.
Merci Benoît. Tu nous proposes aussi tes choix musicaux. Alors, de vieux cons. Bon, c'est toi-même qui le dis. Hein. Mais Benoît, tu n'es pas vieux.
Mais oui, Sophie. Depuis quelques semaines, j'ai le privilège, à défaut du bonheur physique, d'appartenir au cercle des bénéficiaires de la carte vermeille. À moi les réductions SNCF, cinéma, musée et tutti quanti. Le corollaire de cet état, c'est qu'en plus, je peux me lever légitimement, quotidiennement, avec une délectation non coupable dans la pratique et les commentaires du parfait vieux con. Et ça, c'est chouette. C'était mieux avant, rien de neuf en cinéma depuis Truffaut, rien d'écrit en littérature depuis La recherche du temps perdu de Proust, et la musique, alors là, ma brave dame, c'est la catastrophe. Mozart, Bach, Vivaldi, Schubert, oui, Miles Davis un peu, la pop-rock des années 80 passe encore, mais depuis, rien. Ce dimanche, à la fête de la musique, à peine un ou deux groupes qui gratouillent des instruments, pour le reste, des jeunes au regard perdu qui poussent des boutons et font saigner les oreilles des passants avec d'assourdissants infrabasses. Bah oui, vieux con, quoi. Alors évidemment, quel ne fut pas mon désarroi en préparant cette émission, en constatant que 8 sur les 10 personnes présentes avaient moins de 30 ans, voire moins de 25 ans, et qu'en plus elles étaient pétries de talent. On me promettait une belle gérontocratie omnipotente, et je me retrouve avec une bande de jeunes triomphants. Comme le disait Léon Blum, non, ce n'est pas un rappeur des années 90, le sang court plus vite dans un corps rajeuni. J'ai donc vite cherché, dans ce qui me semble être la vraie culture, de quoi alimenter cette rubrique. J'ai presque trouvé, avec Midnight Runner, groupe star des années 80, leur leader, Kevin Roland, 70 ans au compteur, prépare un album, sombrement intitulé Love, qui sortira le 4 septembre et sera suivi d'une tournée. Il est déjà possible d'écouter sur les plateformes le premier single My Life in England, tout un programme. Dominica, lui aussi, nous annonce un nouvel album, prévu pour l'automne, Spiral, avec une tournée dans la foulée qui passera à Rouen, en février 2027. Dominica est sans doute le plus talentueux des songwriters français, en tout cas le plus poétique. Deux titres sont déjà disponibles à écouter. Un jour j'ai disparu, titre très touchant, et Bromure, eh oui, qui nous démonte avec classe ces vieux fous qui tentent de nous gouverner, un délice. Mais c'est finalement la saxophoniste pure enfant de New York, Laetitia Benjamin, qui a retenu tout le monde l'attention. Elle signe un bel album, We Dream, où explose tout son talent. Il pourra tourner sur vos platines tout l'été. Enfin, pour ceux qui ont encore des platines, hein, Niark, vieux con. Nous en écouterons un morceau en fin d'émission, Flame Keeper. Un autre disque peut tourner avec bonheur sur vos platines, c'est celui de la Maison Tellier qui nous revient avec un très bon album intitulé La timidité des arbres. On est toujours dans les arbres. Une belle écriture, une belle musique pour ce groupe qui est né à Rouen, dans lequel on peut entendre le trompettiste Fred Aubin, que l'on aime tant. La Maison Tellier sera en concert à Rouen au 106 le 25 septembre, histoire de fêter au passage les 20 ans du groupe. Si vous voulez des places, je crois qu'il faut se dépêcher, sinon vous pourrez toujours écouter l'album. On écoute tout de suite un morceau qui donne son nom à l'album, La timidité des arbres.
Certains soirs où j'avais pris le temps qu'il fallait, ma calèche emmenait au grand galop. Mes amis des cadets, le printemps arrivait, justement il faisait déjà bien chaud. Rendez-vous près du frêne, l'un de vous prendra les rênes. Après le chêne, à le. À l'orée de la Londe, la pleine lune m'inonde de sa lumière bleue. Bien des virages, dépassant les marécages, le bruyant équipage me dépose. On me tape dans le dos, on flatte les chevaux, on me dit ces quatre mots, cette fois tu oses. Colline des deux amants, c'est là que normalement.
Voilà. On écoutait La timidité des arbres de la Maison Tellier et là maintenant on part au frais dans une église, Marius.
En effet, en ce moment à Rouen, une ancienne église près de la place du Vieux Marché, laissée à l'abandon, est en train d'être rénovée en salle de cinéma. Sonia, tu as rencontré Mathilde Roland, la coporteuse de ce projet donc.
Ouais, tout à fait, du coup je vais vous parler un peu de l'église Sainte-Croix des Pelletiers, un lieu qui peut être méconnu pour certains de nos auditeurs, et d'ailleurs pour moi je dois avouer que je connaissais pas du tout le lieu avant de le découvrir avec une fabuleuse exposition. Cette église est restée fermée pendant près de 10 ans. Aujourd'hui elle renaît grâce à l'association La Nef avec une expo qui nous vient du studio néerlandais Drift, nommé Mido. Des fleurs géantes en lévitation qui s'ouvrent et se referment lentement au-dessus du public, comme une prairie de nymphéas passées au néon, qui m'ont beaucoup rappelé Monet d'ailleurs, et elle est là jusqu'à la fin du mois de septembre. Ouverte de 14h à 19h, et l'entrée est totalement gratuite. L'association ne s'est pas contentée d'y organiser cet événement, elle a également participé au nettoyage et à la remise en valeur du lieu. afin de le rendre plus accueillant aux visiteurs. Et si ce projet culturel est déjà très intéressant, aujourd'hui les ambitions pour l'avenir sont tout aussi impressionnantes. Car oui, l'objectif serait vers 2031 de transformer cette église en un véritable lieu de cinéma et de vie culturelle. On y trouverait notamment des salles de projection, mais aussi des espaces de rencontres, un café, des lieux pouvant accueillir des conférences ou d'autres événements. Concernant l'exposition actuelle, je vous invite vraiment à y aller, à la découvrir. Entre l'architecture de l'église et cette installation très lumineuse, florale et printanière, l'ensemble crée une atmosphère magique. C'est une œuvre qui surprend et qui émerveille. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le futur projet de cinéma, vous pourrez également échanger avec l'équipe présente sur place. Elle présente notamment des modélisations 3D réalisées par un architecte d'intérieur qui permettent de se projeter dans ce qu'on pourrait devenir l'église dans les prochaines années. On peut ainsi découvrir les futurs espaces de projection, les lieux de convivialité et les différents aménagements possibles. Pour en parler plus en détail, nous allons maintenant écouter Mathilde Roland, co-porteuse du projet, qui va nous présenter à la fois l'exposition actuelle et les perspectives de ce futur cinéma culturel.
Je suis Mathilde Roland, je suis co-porteuse du projet La Nef de restauration de l'église Sainte-Croix des Pelletiers et membre du conseil collégial de l'association. Et donc ce projet d'exposition, c'est d'abord une rencontre avec Philippe Platel, le directeur du festival Normandie Impressionniste, qui a imaginé cette œuvre dans ce lieu. Ce sont des artistes néerlandais et ils se sont vraiment adaptés au lieu ici, à l'espace, pour nous faire ce beau cadeau qu'on est vraiment très très heureux d'accueillir. Alors pour l'instant, l'association n'est pas propriétaire du lieu. Effectivement, elle vise à l'être via une cession de la ville de Rouen à l'euro symbolique. C'était un appel à projet de la ville de Rouen qui souhaitait céder cette église et auquel notre association a répondu, notamment avec comme motivation première de continuer à faire vivre ce lieu en tant que lieu culturel puisque c'était une salle de spectacle pendant longtemps. Et donc l'idée, c'est de créer deux salles de projection, de cinéma principalement, et puis un espace café de 200 mètres carrés, une petite terrasse de 70 mètres carrés quand même. Et puis l'idée, c'est aussi de que cet espace puisse servir à plusieurs usages culturels. Il y aura notamment un espace scénique dans l'espace café. On se dit que les salles de cinéma peuvent aussi servir à des conférences, à du spectacle vivant de temps en temps. Et l'idée, c'est encore une fois que ce projet soit celui des citoyens et qu'on recrée un lieu culturel où les habitants ont vraiment leur part de participation, notamment dans la programmation. Évidemment, on a plein d'idées. C'est de là d'où on vient, le cinéma, et on a vraiment plein de choses qu'on aimerait faire découvrir. L'idée, c'est de rester sur du film ancien, donc ça peut être ça peut aller du Chaplin à Mad Max, et on a aussi plein d'idées de choses inédites, de films qu'on n'aurait pas encore vus sur nos écrans. Il y a énormément de films qui sont restaurés chaque année et qui n'arrivent pas sur les écrans rouennais faute de place. On aimerait vraiment pouvoir les faire redécouvrir.
Alors moi, sincèrement, je suis franchement très emballée. J'ai vraiment hâte de voir ce projet venir. On remercie la Nef et leurs bénévoles pour avoir fait revivre ce lieu. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site internet lanefrouen.fr et les réseaux sociaux.
Merci Sonia. Alors il y a déjà une église reconvertie à Rouen hein, pour un autre usage que le culte. C'est l'église Saint-Nicaise derrière l'hôtel de ville. C'est maintenant une brasserie artisanale, une église brasserie. Elle est ouverte tous les soirs, on vous recommande, hein. C'est un très très bel endroit. Alors des églises qui accueillent d'autres usages que le culte, ça n'est pas nouveau. Tout près d'ici, l'église Sainte-Claire de la Grand-Mare a même accueilli dans les années 60 des réunions associatives et politiques très animées. C'est Jean-Pierre Mouton qui nous a appris cela. Le président de Bien Vieillir à la Grand-Mare, BVGM, organise une balade historique dimanche 28 juin pour découvrir l'histoire du quartier. La Grand-Mare et la Lombardie au début, c'est une énorme ferme de 175 hectares. Sœur Marie-Ernestine en a fait ensuite un projet innovant. On écoute Jean-Pierre Mouton.
En 1873, une chance formidable, la ferme de la Grand-Mare était quasiment en ruine et elle était à vendre. La congrégation religieuse à laquelle elle appartenait en a fait l'acquisition et elle a commencé à accueillir des jeunes filles donc, qui sortaient de prison pour diverses activités, la cuisine, des travaux ménagers et aussi la culture, l'élevage, les cultures maraîchères et pour aller vendre tous ces produits sur les marchés de Rouen. Et de 1873 à 1910, date de sa mort, On pense qu'elle a accueilli plus de 3000 jeunes filles dans cette ferme.
Alors, il faut préciser que la prison en question, c'est la prison de Bicêtre, qui était rue Saint-Vivien, donc dans l'actuel quartier de la Croix-de-Pierre, et que cette ferme-école était une première en France, et on venait la visiter de très très loin.
De Belgique, d'Allemagne, différents pays d'Europe, effectivement, puisque j'ai l'habitude de dire, c'est le début de l'insertion par le travail, quoi. C'est un petit peu ce que fait Intermède Emploi maintenant sur le quartier, en fait. Ouais.
Au décès de Sœur Marie-Ernestine, et avec, effectivement, la loi de séparation de l'Église et de l'État, les choses se finissent. Ouais, et là, c'est d'autres institutions qui prennent le relais, en fait, des associations type loi 1901, qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la première association du quartier, qui a été créée le 9 janvier 1967, qui s'appelait la Commune Libre.
De la grand-mère.
Hein, la première association du quartier dite Loi 1901, une association assez intéressante parce que le président de cette association de l'époque, donc monsieur Vallier, s'est octroyé le titre de maire et il arborait parfois une belle écharpe tricolore. Donc on voit qu'il y avait déjà une volonté quand même d'être très actif, très réactif et peut-être un petit peu en contre-pouvoir aussi du pouvoir municipal de la ville de Rouen.
Tout à fait. C'était un petit peu en opposition au maire de l'époque, Jean Le Canuet. Alors cette association est née en fait dans les premiers Verts et Aciers, les Marcel Lodz. Et c'est vrai que dans ce secteur, les 21 immeubles qui ont été construits, représentant plus de 500 appartements, il y avait une richesse culturelle, associative extraordinaire. Ce que je cite souvent aussi, c'est comme le centre Malraux n'existait pas encore à l'époque, on organisait les réunions dans l'église Sainte-Claire. Il y avait une vie dans l'église Sainte-Claire, une vie associative incroyable, des réunions politiques. Même des gens que l'on classe maintenant de gauche et d'extrême-gauche se réunissaient dans l'église Sainte-Claire. Le parti communiste se réunissait dans l'église. C'est assez savoureux quand même.
Et le prêtre de l'époque, du coup, qu'est-ce qu'il disait ?
Rien, c'est lui qui mettait ses locaux. C'était prévu comme ça d'ailleurs. Hein. Il y avait une cloison à l'intérieur de l'église Sainte-Claire, qui existe toujours d'ailleurs, pour séparer les activités associatives et politiques des activités religieuses, de la messe. Quoi, ouais. Oui.
Et voilà, rendez-vous dimanche prochain, 28 juin, à 9h30 devant le centre Malraux pour 2 heures de marche, tranquille, à votre rythme. Venez découvrir l'histoire du quartier avec la sauce BVGM. Ils annoncent 18 degrés dimanche matin, alors n'hésitez pas. L'interview complète de Jean-Pierre Mouton est à retrouver en replay sur le Spotify et le YouTube de la radio HDR. Vous apprendrez plein de choses.
Le coup de cœur culture de la team HDR.
William a lu pour nous l'histoire du berger Elzéar Bouffier, plus connu sous le nom de « L'homme qui plantait des arbres », le titre de la nouvelle de Jean Giono, un manifeste de la cause écologiste paru en 1953, William.
Ok les amis, mais ouais, comme l'a dit Sophie. Bah déjà, je vais commencer par ce voyage littéraire, par vous partager une pensée de Jean-Jacques Rousseau, parce que ceux qui me connaissent savent que j'adore les citations, qui dit que la contemplation de la nature apaise le cœur et y fait régner la bienveillance. Alors retenez bien ces mots car ils résument parfaitement le chef-d'œuvre dont nous parlons ce matin, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Alors de prime abord, j'étais pas extrêmement intéressé mais je me suis laissé tenter. Je me suis dit que peut-être que j'allais apprendre quelque chose de super intéressant et en réalité j'ai été agréablement surpris. J'ai été touché notamment par le message du livre qui est empli d'espoir, de chaleur et d'humanité. Alors déjà pour comprendre ce texte, il faut d'abord regarder qui l'a écrit. Jean Giono est né à Manosque en 1895. Et ses œuvres, souvent ancrées dans le monde paysan provençal, abordent des questions universelles sur la condition humaine, mais c'est aussi un homme qui a profondément été marqué par son époque. Il a survécu à l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et de cette horreur, des combats sont nés chez lui, notamment un pacifisme absolu et viscéral, et un besoin vital de se tourner vers ce qui ne ment jamais, la nature et le vivant. Donc c'est en 1953 que Giono publie cette nouvelle qui est magistrale. L'homme qui plantait des arbres. L'histoire est celle d'Elzéar Bouffier, un berger solitaire qui vit dans une région déserte, aride et balayée par les vents en Haute-Provence. Cet homme, sans rien attendre en retour, décide de planter 10 000 glands par jour. Année après année, dans une solitude totale, son geste obstiné va transformer un désert de pierre en une forêt luxuriante, faisant revenir l'eau, la faune et le bonheur des villages alentours. Et il aura un profond impact sur ses habitants. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide. C'était l'époque Oppenheimer et la menace atomique. Donc alors que l'humanité vient de prouver qu'elle est capable de s'autodétruire en un claquement de doigts, Giono propose l'exact opposé. Face au génie de la destruction, il oppose le génie de la création, humble et patiente. Il nous montre qu'un homme seul peut détruire le monde, oui, c'est vrai, mais qu'un homme seul peut aussi le reconstruire, feuille après feuille, graine après graine. Donc évidemment, il y a une dimension très philosophique, à savoir le fait que la nature peut guérir. Et d'ailleurs, c'est la thèse fondamentale de l'auteur. C'est que la nature nous apporte bien plus que de simples bienfaits physiques, comme par exemple de l'oxygène. Mais elle nous apporte d'autres bienfaits, notamment sur le plan de la santé mentale. On le sait, hein, la science le prouve aujourd'hui. Par exemple, une célèbre étude de l'université de Stanford a démontré qu'une marche de 90 minutes en pleine nature réduit drastiquement l'activité de la zone du cerveau liée aux pensées négatives et à la dépression. Et sur le plan de la moralité, mais ça c'est ma propre analyse, je trouve que la thèse secrète de Giono, c'est qu'en soignant notre esprit, la nature élève notre moralité. C'est-à-dire que la paix et la sérénité qu'elle va instiller en nous peut désarmer nos colères, nos troubles, nos sentiments négatifs, nos stress. En nous reconnectant au rythme des saisons, elle nous enseigne la patience, la douceur et une bienveillance profonde dans nos rapports avec les autres. Donc l'équilibre du dehors guérit le chaos de l'intérieur. Donc en conclusion, le message d'Elzéar Bouffier est vraiment très très simple finalement. Prenez d'abord soin de vous en vous immergeant dans le vivant. Faites une balade en forêt, allez en bord de rivière, allez au bord de mer. Car cette paix intérieure retrouvée au contact de la nature peut nous désarmer et nous donner la force, la patience et la douceur nécessaires de prendre soin des autres. Et c'est en devenant meilleurs ensemble que tout naturellement on prendra soin de notre terre. Tout est lié. Donc au final, prenez bien soin de chacun d'entre vous.
Merci.
On va parler d'une nouvelle mini-série inspirée de faits réels et tirée d'un livre Sous ses yeux, sorti le 4 juin et disponible sur Netflix. La mini-série relate le meurtre de Rachel Nickel. On écoute Imane qui nous fait découvrir la série.
Alors effectivement, cette semaine, j'ai pu regarder la série un peu fait divers. Elle s'appelle Sous ses yeux, en anglais The Witness, qui veut dire le témoin. C'est britannique, ça s'est passé en 1992, et sur le papier, ça ressemble un peu à un polar classique, à toutes les mini-séries policières qu'on peut retrouver sur Netflix, mais en fait, pas réellement. Ce qui change tout, c'est le point de vue. On ne suit pas les policiers ni le tueur, comme on a l'habitude de faire en règle générale, enfin de regarder. On suit ici la famille de la victime, donc la famille Nickel, le père, André, qui perd sa femme, Rachel, qui a été victime d'un meurtre. Elle a été poignardée 49 fois. Et donc, du jour au lendemain, il se retrouve seul avec un petit garçon de 2 ans. Et ce petit garçon, Alex, il était là quand c'est arrivé. Il a tout vu, sauf qu'il ne parle plus. Il devient complètement mutique, traumatisé, évidemment, incapable de dire quoi que ce soit. Et c'est là que le vrai sujet de la série commence. En fait, c'est ça le cœur de tous les débats. Parce qu'en fait, tout le monde veut savoir, les journalistes, la police, la famille, pourquoi le tueur a épargné cet enfant et qu'est-ce qui s'est passé, en fait. C'est la question qui hante tout le monde du début jusqu'à la fin. Et quand on a la réponse, ça remet un peu les choses en place. Je vous en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler, évidemment. En attendant, André fait ce qu'il peut, il a un enfant de 2 ans sur les bras, il fuit, puisque en Angleterre ça a pris une ampleur énorme. Et donc d'abord il va en France, puis en Espagne, il impose une règle à Alex, donc son enfant. On ne parle pas de ce qui s'est passé à personne, jamais. Donc il a une première enseignante en France qui s'inquiète, les gens autour posent beaucoup de questions, mais lui il tient bon parce qu'il a peur, si son fils parle, il devient une potentielle cible. Sauf que Alex va grandir, il a des amis en Espagne, il commence un peu à se rebeller, un peu comme tous les ados. Et donc le père, il sait plus trop quoi faire, il va beaucoup restreindre, il va le contrôler, il interdit de lui dire beaucoup de choses. Et c'est pas toujours très très habile, mais bon, on comprend d'où ça vient. Donc voilà, c'est une série assez sobre, ancrée dans un vrai fait divers, hein, ça s'est vraiment passé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle prend le temps de montrer ce que ça fait à une famille de vivre un tel drame finalement, et un secret, puisque ça devient un secret au fur et à mesure. Le fils qui grandit sans pouvoir vraiment faire son deuil normalement, sans pouvoir expliquer à ses amis pourquoi il est comme il est. Il y a une espèce de solitude collective dans cette famille où chacun porte le poids tout seul parce qu'on ne peut pas vraiment en parler. Donc, vous avez l'habitude, je mets souvent des notes aux séries que je regarde. Celle-ci, je lui mettrai 7,5 sur 10. Si vous cherchez quelque chose d'un peu différent d'un polar classique qu'on a sur Netflix, vous pouvez y aller.
Ah, merci Imane, merci beaucoup pour ces chroniques vraiment de séries qu'on ne connaît pas à chaque fois. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est des vieux cons, mais enfin, bon, en tout cas, ça nous donne envie. Voilà, maintenant, on va partir en Orient. On va écouter de la musique orientale avec notre nouvelle chroniqueuse, Dima, professeure de musique en Syrie et aussi chanteuse orientale dans l'Orchestre National de Syrie. Elle nous raconte la diva libanaise Fairouz, et c'est 1500 chansons très diversifiées, jazz, musique orientale, classique, traditionnelle. Fairouz est inclassable,
Oui, Sophie Fayrouz, pour moi, c'est une amie pour tous les moments importants de la vie, tristes, joyeux, amoureux, etc. Elle m'a donné mon éducation musicale. Pourquoi je vous parle de Fayrouz aujourd'hui dans la pied, dans la lune? Quand j'ai appris que je participerais à cette émission, j'ai tout de suite fredonné un morceau de Fayrouz qui s'appelle « Ya Omarena Weyak » en français « Ou lune, toi et moi ». C'est une image à la lune, notre amie depuis l'enfance comme Fayrouz. Elle est la diva de la chanson arabe. Fayrouz est rentrée dans toutes les maisons et a fait bon... Oui, et a fait le pont entre la musique classique et la chanson arabe, tout en gardant l'âme de chacune. Par exemple, elle a repris un morceau de Mozart, les symphonies 40. On écoute, Yaana, Yaana. Et ainsi, Fayrouz a ouvert la voie et elle a popularisé la musique classique dans le monde arabe de plus et elle a joué.
Elle a joué
un rôle très important dans la sauvegarde de musique orientale et de la chanson traditionnelle folklorique. On écoute un morceau populaire de l'avant. Comme celui-ci. Pour finir, je vous fais écouter le morceau dont je vous ai parlé au début, Lune, toi et moi. Je suis avec toi. Amis, depuis notre enfance, nous avons aimé notre lune et vécu toi et moi, et souvent toi et moi, nous avons coloré le ciel et sémé notre amour.
Merci beaucoup. On reste les pieds dans la lune. On quitte les voies orientales pour rejoindre les voies illuminées avec nos invités, Benoît.
Les pieds dans la lune, un invité sur Terre.
Et en fait, c'est des invités sur Terre. Vous avez bien compris, hein, donc les pieds dans la lune s'ouvrent à l'international, mais on s'ouvre aussi à la culture universelle. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, hein, depuis Pierre Corneille et le CID, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc Mélie Meynier, Karl Espinasse, vous avez de nombreux talents et des activités multiples, ensemble et séparément, déjà professionnelles, et tournées vers la musique et la voix. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission et où vous l'avez compris, nous aimons tellement les jeunes, surtout moi en fait. Donc Mélie, on va commencer par vous, parce que voilà, on ne reviendra pas à Karl. Est-ce que vous pouvez un peu nous dresser en fait votre parcours pour en être déjà là, en fait, aussi jeune, et puis après j'arrêterai avec les histoires d'âge parce que je sais que ça vous énerve et vous avez raison, pour en être dans ce parcours déjà un petit peu professionnel, quel parcours, quel cursus vous avez suivi ?
Bonjour. Alors, j'ai un parcours un peu décousu, pour le coup, parce que j'ai commencé la musique toute petite, comme Karl, au conservatoire, ici à Rouen. Puis après environ 12-13 ans de musique, j'ai totalement arrêté. J'ai fait des études plutôt classiques, une licence de droit, et après j'ai fait un master en management culturel. Toujours à Lyon, du coup. Et je suis revenue à Rouen il y a 3-4 ans pour reprendre le conservatoire, donc la musique classique.